France Inter. Le 7-9. Marc Fauvel.
Bonjour Jean-François Ballaudet.
Bonjour Marc Fauvel.
Vous dirigez l'une des plus grandes universités franciliennes, celle de Nanterre. 34 000 étudiants. Université bloquée comme d'autres en France par le mouvement des étudiants. Aucun examen chez vous depuis le début de la semaine. C'est la chienlit à Nanterre en ce moment.
En tout cas, on vit une semaine, compliquée, dans la mesure où les partiels, car il s'agit essentiellement de partiels dans le cadre des contrôles continus, sont empêchés de se tenir, de fait.
Alors, par qui précisément? Qui sont ceux qui bloquent aujourd'hui votre université?
Beaucoup d'étudiants, sans doute d'autres personnes qui viennent en soutien. Les étudiants... qui votent en Assemblée Générale le blocage, mettent en avant l'opposition à la loi ORE. D'autres personnes s'expriment par des communiqués tardifs et anonymes, avec des intentions plus radicales, qui visent clairement la perturbation, l'organisation du désordre. Mais disons que pour ce qui est des principaux acteurs des blocages, aujourd'hui, ce sont un collectif d'étudiants. Oui.
Des agitateurs professionnels, comme l'a décrit Emmanuel Macron. Il y en a parmi eux, ou ce sont des visages d'étudiants que vous croisez tout au long de l'année, ou ce sont de nouveaux visages qui sont arrivés dans votre fac?
Actuellement, sur les blocages, ce sont, en tout cas, découverts et identifiables des étudiants de l'université. On ne peut pas exclure qu'il y ait un certain renfort d'étudiants extérieurs à notre université. Il est certain qu'il y a très discrètement des soutiens de personnes qui sont extérieures à l'université. Du reste, ce sont sans doute ces personnes qui avaient organisé il y a 10 jours, dans la nuit de dimanche à lundi, 9 avril, l'occupation d'un bâtiment de l'université avec une plateforme revendicative qui était bien plus large que l'opposition à la loi ORE.
Suite à cette occupation, vous avez demandé l'intervention des CRS. Ils sont venus. Aujourd'hui, l'occupation a repris. Est-ce qu'il faut à nouveau envoyer les CRS sur place à Nanterre?
Alors,
est-ce que vous le souhaitez?
Je fais un distinguo entre l'occupation par effraction par un groupe non identifié qui a motivé ma demande d'intervention des CRS et les blocages. Alors, d'aucuns peuvent considérer que c'est un distinguo subtil, mais je ne me suis jamais opposé en 6 ans de présidence de l'université à la moindre assemblée générale d'étudiants, au moindre blocage, quand bien même il constituait un empêchement au fonctionnement normal de l'université. Et je ne le ferai pas.
Donc vous regrettez de l'avoir fait la semaine dernière?
Ce que je regrette, ce sont les conséquences. C'est-à-dire que, au fond, l'expérience instruit, entre le temps où l'on demande l'intervention des forces de police, où ça se déploie, et le temps où l'intervention se fait effectivement, avec, je pense, une certaine habileté des occupants de la nuit qui, à un moment, ouvrent les portes du bâtiment, font que des étudiants entrent et introduisant une forme de confusion. Il se produit effectivement, du coup, une intervention de CRS au milieu des étudiants et cela est regrettable, évidemment.
Si on vous comprend bien ce matin, vous n'avez pas l'intention de faire un nouveau appel au CRS pour déloger les bloqueurs d'aujourd'hui?
Pas pour l'instant, non,
pour
bien
l'instant.
Sûr, pas pour l'instant et je l'espère pas du tout. Je vais même renverser ma réponse. Pour moi, quelque chose s'exprime à travers ces blocages. Comme je l'ai dit, une opposition à la loi ORE, peut-être un malaise plus profond. Donc moi je dis aux bloqueurs et à tous les membres de ma communauté, eh bien nous remettons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui a légitimité? Ce sont les instances des universités. Je vais donc les réunir de façon exceptionnelle, conseil d'administration, conseil de la formation de la vie universitaire, pour faire un point sur cette situation que nous connaissons et pour redonner la main aux instances légitimes. Ensuite, je suis prêt à organiser ce qu'on pourrait appeler des états généraux pour que nous puissions discuter avec l'ensemble des parties prenantes, élus, non élus, bloqueurs, anti-bloqueurs, partisans de la loi, personnes s'interrogeant sur la loi, pour avancer ensemble.
Le président de l'université de Tolbiac, autre université bloquée à Paris, dénonce une situation, je cite, pré-insurrectionnelle de la violence, du sexe, de la drogue, de la prostitution dans la fac occupée.
C'est terrible. Enfin, moi, j'ai, pour ma part, je suis attentif à ce qui se passe autour de nous, et je sais qu'à Tolbiac, les choses ont tourné d'une manière assez désolante. Dans d'autres universités aussi, comme à Toulouse, Jean Jaurès, se passent des choses tout de même très, très, très problématiques. On est effectivement dans des situations là où l'université est en train de devenir autre chose, où il y a une sorte de prise de l'université pour en faire un lieu alternatif ou que sais-je. Je rappelle quand même que ce sont des établissements publics qui sont financés par l'État, donc financés par les contribuables, et on ne peut pas décemment poursuivre sur cette voie, que ce soit à Tolbiac ou à Jean Jaurès. Et je voulais éviter cela à Nanterre, évidemment.
À Nanterre, le président de la fac que vous êtes a le droit de se promener partout encore aujourd'hui ?
Si vous voulez, les esprits sont suffisamment échauffés pour que je ne me balade pas, comme vous dites, sur le campus.
Vous n'avez pas accès à tous les amphis aujourd'hui ?
Non, je ne m'y rends pas. Si vous voulez, lorsque vous avez des manifestations d'hostilité d'un certain nombre d'étudiants, etc., qui, je le comprends, sont très, disons, émus par le fait que des CRS soient intervenus, je ne vais pas faire de provocation. Mais ce que je cherche à réaliser, ce sont les conditions d'un dialogue renoué, serein, où je peux expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et pourquoi je regrette que cela se soit traduit de la manière dont on l'a vu. Je le regrette infiniment et je souhaite surtout que nous discutions sur le fond, parce que une position de blocage pour dire non à la loi ORE, point, ça n'est pas quelque chose qui peut déboucher sur du constructif. En revanche, si on dit je suis contre la loi ORE pour telle et telle raison, et si nous commençons à entamer le dialogue en disant pourquoi est-ce que la loi ORE peut-être est intéressante, pourquoi est-ce qu'on peut l'aménager pour en faire quelque chose d'intelligent, qui donne du sens nos licences, qui nous aide à faire mieux réussir les étudiants que nous accueillons, alors là, ça devient plutôt intéressant et constructif.
Jean-François Balloé, président de l'Université de Nanterre, on va parler de cette réforme Parcoursup dans un instant. Un mot également des examens. Aucun examen chez vous à Nanterre depuis lundi. Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, pour l'essentiel, ce qui ne peut pas se tenir cette semaine, ce sont des partiels. Donc, c'est-à-dire les derniers éléments de validation des contrôles continus des étudiants. Donc, dans certains cas, les partiels qui ne se tiennent pas ne sont pas indispensables, au sens où il y a eu plusieurs notes et on peut faire sans. Dans d'autres cas, il faut qu'ils se tiennent. Donc, on va voir de quelle manière ils peuvent être reportés ou aménagés.
On peut les faire en dehors du campus ?
Pour l'instant, je n'ai pas de solution unique, univoque. Ça doit se faire de manière très très fine en fonction de chaque formation. En revanche, il y a un vrai sujet qui est celui des examens, au sens strict du terme, des examens terminaux, dans le cadre des contrôles dérogatoires. Nous avons un certain nombre d'étudiants qui sont en enseignement à distance, qui sont salariés, des étudiants handicapés. Il y a toute une série de publics spécifiques qui doivent passer leurs examens à partir du 2 mai. Et là, il est essentiel. Essentiel, car autrement cela ruinerait la possibilité pour eux de valider leur année, qu'ils puissent composer. Donc là, c'est là-dessus que je fais un appel solennel aux bloqueurs et à la communauté pour dire attention, nous sommes en train de non seulement de porter un grave préjudice potentiellement aux étudiants dont je parle, mais aussi un grave préjudice à l'université.
Une assemblée générale à Nanterre, une assemblée où étaient notamment des enseignants grévistes, a voté le principe du 20 sur 20 à tout le monde, la note 20 sur 20 maximum à tous les étudiants pour éviter je ne sais pas quoi d'ailleurs. Votre avis
Bon, je pense que c'était une provocation et les faits...
Je ne sais pas si c'était une provocation. Il y a eu d'autres AG qui ont voté le principe du 10 sur 20 pour tout le monde ou du 12 sur 20 pour tout le monde pour permettre aux grévistes de continuer la grève sans être embêtés, entre guillemets, par les examens.
Annoncer que les partiels sont supprimés, qu'on octroie un 20 sur 20 politique ou même un 15 sur 20, et bon, est-il légal ? Voilà. Donc, ça ne peut pas. Ça ne peut pas se faire ainsi. Du reste, les réactions au sein de la communauté de Nanterre ont été très vives. Un collectif d'enseignants-chercheurs a répliqué très très vite en disant qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce qu'ils appelaient une mascarade. Bon, je ne peux, aucun directeur du FR ne peut cautionner cela avec nous, équipe présidentielle. Personne ne peut aller dans cette direction. Donc moi, je prends cela pour une provocation et je dis soyons sérieux. Il ne faut pas faire des études les victimes d'un combat politique.
Jean-François Balloé, président de l'Université de Nanterre, invité du Grand Entretien, il est 8h30. Question de Léa Salamé.
Monsieur Balaudet, je voudrais vous faire réagir sur une phrase d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, c'était dans son entretien au Point, la toute première interview qu'il avait donnée, à l'automne dernier. Il avait dit cette petite phrase, « Il faut arrêter de faire croire à tout le monde que l'université, c'est pour tout le monde. » Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Ouais, c'est une question piège.
Non, parce que ça dit tout, je pense, de sa philosophie. Oui, oui. Il faut arrêter de faire croire à tout le monde que l'université, c'est pour tout le monde.
Moi, je ne vais pas faire l'exégèse des paroles du président de la République. Je suppose qu'il voulait dire qu'il y avait à réfléchir à l'orientation des futurs, des lycéens, et éventuellement considérer que certains seraient, disons, mieux orientés s'ils allaient vers des BTS, d'autres vers des formations à l'université, d'autres vers d'autres types de formations, et ainsi de suite. Pour ma part, voilà, la position qui est la mienne, je pense largement partagée par les présidents d'université, est que, de fait, l'université a vocation à être très, très largement ouverte. Mais aujourd'hui, elle l'a été de telle sorte que, d'une manière absolument indiscriminée, nous avons permis que chacun puisse s'inscrire où il le souhaitait. Et nous avons organisé, enfin, nous avons laissé, au fond, se mettre en place une sélection par l'échec. Moins de 30% des étudiants qui s'inscrivent en première année de licence obtiennent en 3 ans leur licence. Donc on a quand même un vrai problème.
Donc vous êtes d'accord avec la philosophie de la réforme du gouvernement et cette fameuse procédure Parcoursup, puisqu'à l'origine, les protestations, c'est contre Parcoursup. C'était ça. À l'origine, vous pensez que ça va dans le bon sens, ce nouveau logiciel pour s'inscrire à la fac ?
Oui, je le crois. Dès lors que on arrive à en discuter sans gauchissement d'une façon ou d'une autre.
Gauchissement.
Oui, parce que le raccourci qui s'est imposé est que la loi met en place la sélection à l'université. Et nous ne nous arc-boutons pas les présidents d'université et une bonne partie de la communauté universitaire sur les termes pour le plaisir, mais nous. Très sincèrement, nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une sélection, hein, mais d'une orientation active qui vise à, aider, dans le cadre d'une réflexion qui va se déployer sur le bac moins 3 plus 3, à aider les futurs étudiants à aller dans les filières pour lesquelles ils ont de l'appétence. Qu'ils soient qu'ils aient les meilleures armes d'emblée ou pas, parce que la loi, et pour moi c'est son principal mérite, vise à travailler sur le soutien des étudiants les plus fragiles. C'est-à-dire les procédures de parcours adaptés qui sont sous le WISI, on dit oui à un candidat ou WISI, les procédures parcours adaptés visent précisément à aider les plus fragiles par des renforcements qu'on va mettre en place.
Pour qu'ils obtiennent les fameux prérequis. Pour pouvoir s'inscrire là où ils veulent, c'est ça que vous dites ?
Non, même pas. On pourra les prendre, y compris dans le cadre du WISI, on les inscrit. Vous avez un bac littéraire, vous voulez faire une licence de maths, on vous dit, bon, ok, WISI, et là, on organise un soutien spécifique pour l'étudiant motivé, qui pourtant, au départ...
Vous pouvez nous dire comment ça se passe ? Parce que, si j'ai bien compris, chaque jeune de 18 ans, chaque lycéen doit faire 10 choix, 10 vœux qu'il classe de manière hiérarchique.
Non hiérarchique. Désormais non hiérarchique.
Alors, 10 vœux. Moi, je voudrais savoir comment vous faites le tri. Par exemple, si moi, je suis en terminale et Marc Fauvel est en terminale, si tous les deux, on veut s'inscrire en droit à Nanterre, comment vous me dites oui à moi et oui si à lui,
voilà,
ou le contraire ?
Vous n'avez qu'une place, vous prenez lequel ?
Comment vous choisissez ?
Heureusement, on a plus d'une place. Non, si vous voulez, le logiciel est conçu de telle sorte que si vous avez 700 places en première année, vous allez faire une liste ordonnée avec des critères, voilà, sur lesquels une commission de travail, une commission de travail et qui permet des interventions humaines en disant bon, la liste ordonnée, je la modifie ainsi. Moi, je veux faire remonter en regardant la lettre de motivation celui-ci ou celle-là. Voilà. Bon, alors la liste ordonnée étant donnée, chacun des candidats reçoit ses réponses. Oui, pour telle formation. Et si vous en avez fait 10, que vous avez 5, 6, 7, 10 réponses positive, vous devez dans 3 jours avoir fait votre choix et vous libérez ainsi des places.
Mais vous, vous faites le choix ? Vous, entre mon dossier et celui de Marc Fauvel, pourquoi vous allez prendre Marc et pas moi ?
En fait, dans la liste ordonnée, vous pouvez très bien vous retrouver en première, 50e, 100e, 200e position. En droit, vous serez d'emblée appelé, comme on dit. Et au fur et à mesure des choix des uns et des autres, les appels vont remonter. Alors, une des discussions que je souhaite avoir au sein de mon université, de savoir si, pour une capacité d'accueil de 100, j'appelle d'abord 100 personnes, et puis ensuite, les choix se faisant, on appelle les autres, ou si on élargit, et d'emblée, on va appeler un peu plus de monde pour justement montrer que on n'est pas dans un procès, une procédure fermée, mais que on est prêt à jouer le jeu finalement d'une proposition, de propositions nombreuses à vous deux. Si d'aventure, l'un était centième et l'autre cent unième dans la liste ordonnée.
Pourquoi ne pas dire très simplement que oui, ça s'appelle de la sélection?
Parce que, si vous voulez, comme ça remonte, il y a de grandes chances que pour une formation à 100, à capacité d'accueil de 100 et avec 500 vœux exprimés, le 500e se voit proposer une place par l'effet des choix successifs faits par les candidats qui sont...
Mais ça s'appelle quand même de la sélection.
C'est pas une sélection, c'est une...
Ceux qu'on estime les meilleurs en haut et ceux qu'on estime les moins bons en bas, ça s'appelle un classement, une sélection.
Ben, un classement n'est pas
en
une sélection.
En dehors du cas de Léa Salamé et de Marc Fauvel. Oui.
Classé n'est pas nécessairement sélectionné.
Dans un ordre, si.
C'est un choix, ce sont des choix successifs. Non, si vous voulez, là où ce n'est pas une sélection, c'est que si vous avez 100 places et que vous retrouvez dans la situation où le 300e se voit proposer une place, il est quand même difficile de dire qu'on a exclu par principe ceux qui étaient au-delà de la 100e place.
Un premier détour au standard de France Inter, 0145 24 7000. Tiens, c'est la présidente de l'UNEF qui est avec nous. Bonjour Lila Lebas, merci de participer à ce grand entretien. On vous écoute, vous avez sans doute une question à poser au président de l'Université de Nanterre.
Oui, tout à fait. Déjà, évidemment, merci pour cette émission. J'ai une question à poser puisque Monsieur Balaudet, vous avez déclaré lors d'une commémoration de mai 68 sur votre université que vous étiez contre la sélection et qu'il n'y en aurait pas à Nanterre. Et là, à cette antenne, vous venez de dire l'inverse, puisqu'effectivement, Parcoursup met bel et bien en place une sélection. Vous l'avez d'ailleurs démontré. Il y aura un classement, un tri des dossiers des étudiants, et donc des étudiants qui seront refusés dans la filière de leur choix, qui pourront ne pas réaliser leur projet d'études et leur projet professionnel. Alors, si vous êtes contre la sélection, pourquoi ne pas prendre une position claire, publique, contre la mise en place de cette loi, contre la mise en place de Parcoursup, qui va avoir de véritables conséquences sélectives pour les étudiants? Et pourquoi réprimer et envoyer les forces de l'ordre pour des étudiants qui se mobilisent sur votre université?
Bon, alors je n'ai pas joué, vous allez dire que je joue avec les mots, mais comme je viens de l'expliquer, je ne pense pas me contredire. Je ne considère pas que Parcoursup organise la sélection, donc je peux dire que je suis contre la sélection à l'université et défendre Parcoursup. Je vous rappelle, vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux, que jusqu'à présent, c'est-à-dire dans le système APB, tous ceux qui souhaitaient venir étudier à Nanterre ne le pouvaient pas. Je veux dire, quand vous avez l'an dernier, pour 5800 places en L1, nous avions plus de 100 000 vœux exprimés. Voilà. Je pense que les auditeurs comprennent que, de fait, tout le monde ne pouvait pas se retrouver à Nanterre. Les 100 000 vœux ne pouvaient pas atterrir en Nanterre. Cette année, dans le cadre de Parcoursup, nous avons élevé le nombre de places. Je tiens quand même à le signaler. Nous avons élevé le nombre de places ouvertes en L1. Nous sommes à 6500 places ouvertes en L1. Nous avons 68 000 vœux. Voilà. Donc ça n'est pas. Moi, je veux bien qu'on appelle ça de la sélection, mais c'est aussi un principe de réalité. Une université comme la nôtre est au maximum de ses capacités. Donc, de toute façon, on ne peut pas prendre plus de 6500 néo entrants en L1. C'est-à-dire, c'est juste les contraintes qui sont celles d'un établissement tel que le nôtre. Donc, voilà. Après, les candidats, avec leurs 10 vœux, font une série de choix et la garantie qui a été donnée par le ministère, et je crois qu'on peut faire confiance au ministère dès lors qu'il y a 20 000 places ou 19 000 places de plus ouvertes à l'échelle nationale et que chacun des candidats aura une place à l'université, c'est assuré, garanti, c'est en somme l'engagement qui est pris à l'échelle nationale. Et nous allons jouer notre rôle dans cette partie, mais dans les limites de nos capacités. Vous savez bien que nous devons avoir un certain réalisme en la matière. Je pense que vous partagez par responsabilité cette analyse.
Lila Lebas, présidente de l'UNEF, vous êtes vous aussi étudiante. Est-ce que vous passez en ce moment des examens?
Oui, tout à fait. Je passe des examens. Je suis en Master 2 à l'Université de Créteil, pour ma part. Mais je voudrais juste rebondir sur...
Non, et pardon, juste encore... un mot. Vous souhaitez qu'on puisse les passer dans toute la France, ces examens, ou pas? Ou il faut les bloquer aujourd'hui? C'est l'appel que vous lancez.
Je pense qu'il faut les reporter, ces examens, dans les universités qui sont bloquées, qui sont perturbées par la mobilisation, puisque c'est une mobilisation d'ampleur qui a lieu dans plus d'une vingtaine d'universités. Et il faut que la ministre écoute enfin les revendications des étudiants et arrête de nous mépriser et de caricaturer la mobilisation des étudiants sans écouter leurs revendications.
Et votre réponse d'un mot à Jean-François Balaudet, s'il vous plaît.
Mais la réponse d'un mot, c'est que quand vous dites aujourd'hui, il faut être réaliste, moi je dis juste qu'on a une génération qui est de plus en plus nombreuse, qui veut juste avoir le même droit que les autres, avec le baccalauréat, avoir accès à la filière de son choix à l'université. Et donc c'est une question de moyens, de réforme de la pédagogie à l'université, qui doit être mise sur la table, et pas la mise en place d'une sélection qui va écarter une génération juste parce qu'elle est plus nombreuse à l'université.
Merci Lila Leba, présidente de l'UNEF, d'avoir été avec nous ce matin. Yasmine nous appelle de Nanterre, tiens également. Bonjour Yasmine, vous êtes en direct sur l'antenne.
Oui, bonjour. Je vous remercie déjà de m'avoir prise du standard. Je voulais poser une question à Monsieur Valedé. Je suis donc étudiante dans votre université en master 1 de droit des affaires et mes parcelles sont également bloquées. En revanche, je fais partie du mouvement anti-blocage qui se veut apolitique et qui est juste là pour pouvoir garantir l'accès à l'université. Je souhaitais donc savoir quelles étaient les mesures concrètes que vous comptiez prendre à l'égard de ces étudiants qui sont anti-blocage et qui n'ont malheureusement pas de soutien du secrétariat, pas de soutien de l'université, qui sont obligés de faire face aux problématiques actuelles seuls et qui tentent de gérer au maximum et de façon pacifique et entre guillemets formelle, en suivant le modèle et le jeu des étudiants qui bloquent l'accès à l'université, qui occupent illégalement des lieux. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous comptiez faire, quelles étaient les solutions que vous envisagez.
Et Yasmine, que vous offrez. Votre président vous répond.
Oui, bonjour Yasmine. Nous sommes en liaison constante avec l'ensemble des directeurs du FR depuis le début de la semaine pour réfléchir à la situation dans laquelle nous nous trouvons et pour trouver des solutions. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure et je le redis une seconde ici, nous ne pouvons pas aller dans une forme de surenchère. Nous n'avons pas intérêt à aller vers une forme de, disons, violente d'action. Ça n'est pas de saison aujourd'hui. Il nous faut aller vers une forme d'apaisement et de prise de conscience responsable des conséquences du blocage. Donc ça veut dire pour moi que les blocages n'ont pas vocation, ne peuvent pas, n'ont pas vocation à se poursuivre. Et je voudrais arriver à convaincre l'ensemble des parties prenantes, bloqueurs compris, c'est dans le cadre d'une discussion collective sur les enjeux, et en écoutant les revendications des uns et des autres, que nous allons avancer. Donc les blocages ne vont pas se poursuivre, je l'espère, et nous trouverons, je vous l'assure, nous y travaillons avec les directeurs du FR, les solutions pour permettre la validation sans conteste des diplômes avec leur pleine valeur.
Et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci Jean-François Balaudet, président de l'Université de Nanterre, d'avoir été ce matin l'invité du grand entretien.